Voilà. Donc on arrête de dire des bêtises à partir de maintenant, s'il vous plaît. Donc bonjour, merci d'être venu à cette table ronde sur les nouvelles formes d'édition. J'ai la chance d'avoir autour de moi un certain nombre de gens qui ont soit des écrivains qui, je dirais d'une certaine façon, arrivent dans le grand pool de la grande mare d'écrivains, et ça a une signification particulière pour certains d'entre eux, soit des éditeurs qui sont aussi des éditeurs qui se sont lancés il y a relativement peu de temps, tout au moins à l'échelle du Jurassique, sur l'acte de produire des livres. Donc je vais le faire de ma gauche à ma droite, ça sera plus facile. Je commence par Magali. Bonjour Magali. Donc Griffe d'encre. Donc une collection qui a quand même un certain nombre de livres, de romans, de novellas, de recueils, etc. Et avec le dernier, donc Loire de Loïc Henry, qui est quand même un gros bébé. Mais vous avez fait des choses aussi extraordinaires que Gig, livre donc en deux parties traduit, qui a été d'une difficulté à traduire, sans doute extrêmement fascinante. Vous avez quand même eu un certain succès, voire un succès certain, avec une certaine vieille anglaise, Ces continents, qui a gagné plein de prix, je crois que je me rappelais. Donc aussi une collection qui s'est créée relativement récemment, on en parlera. Ensuite, Jérôme Vincent, bon, c'est ActuSF, qui est d'ailleurs en train d'enregistrer la conférence que vous entendrez plus tard sur le site, il vous sera possible de la réécouter, et qui est devenu aussi un éditeur donc de novellas étrangères, de textes francophones et français. On se rappelle de recueil de Sylvie Lainé au succès remarquable. Bon, là aussi, une maison d'édition, entre guillemets, petite, sans que ce soit péjoratif, mais avec un type de travail qui n'existe pas ailleurs, clairement. Et puis, à ma droite, deux auteurs. Nadia Coste, donc, qui a fourré ses héros dans une mare et qui cherche à les en faire sortir, et avec un succès qui ne se dément pas depuis l'apparition du livre, ce qui est formidable. Paul Béand, qui a parlé de pucelles et de brins et de perles chez Demos, avec son roman qui a effectivement beaucoup attiré l'attention aussi. Et ces deux personnes ont la particularité, ça ne se voit pas quand on les regarde, de faire partie du collectif Cocyclix, et donc d'être des gens qui sortent de cette espèce de poule et de vivier d'auteurs qui se bétalisent les uns les autres et qui, d'une certaine façon, émergent ensemble parce qu'ils s'entraident. Et donc on a d'un côté des petits éditeurs à l'affût de ce travail-là, un travail que les grands éditeurs ne font pas, et de l'autre des auteurs qui sont nés dans ce contexte-là et qui, pour certains d'entre eux, ont publié chez des relativement petits éditeurs, mais des livres qui ont été marquants et qui permettront, on l'espère, à ces petits éditeurs de devenir des grands. Grands au sens chiffre d'affaires, bien entendu. Alors, la question que je voudrais poser, je vais commencer par la poser à Magali directement. À partir du moment où on a quelque chose qui est effectivement... On est un petit éditeur, on se crée avec un créneau, on se crée avec un projet littéraire, certainement. On arrive à un endroit où il y a déjà des tas de livres, il y a déjà des éditeurs. Comment envisage-t-on son idée même de l'édition? Qu'est-ce qui change par rapport à Gallimard, pour citer un nom que tout le monde connaît? Tu as un micro, non?
Oui.
Mais réfléchir.
Oui, c'est pas une question facile. Déjà, on joue clairement pas dans la même cour, on voit pas du tout les choses de la même façon. On sait qu'on va pas être dans toutes les librairies, qu'il va pas y avoir des grandes affiches dans le métro pour dire le dernier Loïc Henry, enfin le premier en l'occurrence. On est là pour faire découvrir des auteurs. C'est vraiment j'ai vraiment vraiment du mal à répondre à ta question parce que c'est tellement deux mondes pour moi différents.
Mais cette différence, elle est due à quoi? Vous avez la possibilité de faire des tirages entre guillemets relativement petits.
Je pense que la différence, en fait, ça serait entre une grosse usine et un artisan. C'est-à-dire qu'un artisan, quelqu'un, Ikea, je vais caricaturer, excusez-moi, mais Ikea est l'artisan en bois qui va sculpter, qui va vous faire une armoire sculptée, vraiment personnalisée presque, et ça va être, pour moi, ça va être là. Donc les armoires sculptées, vous n'allez pas en trouver 50 000, vous n'allez pas trouver la même partout. Et donc voilà, ça va être...
Mais c'est aussi, on parle d'une nouvelle forme d'édition, c'est aussi quelque chose qui entraîne un circuit de distribution, un circuit de fabrication, un circuit d'acceptation des manuscrits qui n'est pas celui des grandes maisons. Raconte-nous la cuisine interne un peu. Comment on arrive à créer l'objet, la chaise sculptée, l'objet Loïc Henry avec sa couverture, avec sa typo, avec son choix de dessin, avec son choix d'auteur?
C'est en général des histoires d'amour. Il y a Meno qui avait fait, donc mon associé, qui avait fait un très beau, très beau billet là-dessus en disant qu'elle était monogame récidiviste. Donc qu'à chaque fois, chaque livre était une grande histoire d'amour avec la rencontre, le coup de foudre, la passion fusionnelle et jusqu'au moment où le livre sortait. Et à partir du moment où le livre sort, il ne nous appartient plus, il appartient au lecteur. C'est eux qui le font vivre après ça. Donc voilà, on reçoit les manuscrits, on les lit, on commence à les lire. Si on accroche, on les finit, on les dévore. On dit à l'auteur que oui, on a très très envie de travailler avec lui, est-ce qu'il veut travailler avec nous. Le travail se fait et c'est vrai que c'est l'auteur, c'est quand même cette trip qu'il met dans le livre. Donc c'est quelque chose de très personnel, très intime en fait, pour nous en tout cas, de faire ce travail-là avec lui. Et donc voilà, les corrections se passent. Après, il y a tout le travail sur l'extérieur, trouver l'illustrateur qui va donner une bonne idée du livre, qui va rendre ce livre attrayant au public auquel il correspond. Surtout, ne pas donner un extérieur qui donne envie pour quelque chose qui ne correspond pas. Je sais pas si je suis très claire.
Oui. Donner envie, mais à la bonne personne.
Donner envie aux bonnes personnes. Donc voilà, aller trouver l'illustrateur avec qui on va réussir à faire partager notre passion de ce livre et qui va réussir à la transmettre sur la couverture. Et après, bah, là, ça passe. Donc on est auto-diffusé. C'est nous-mêmes qui le faisons parce qu'on n'a pas trouvé de diffuseur qui nous corresponde. C'est-à-dire on commence à envisager quelqu'un pour la distribution sur la région parisienne. Mais il nous fallait quelqu'un qui fasse des placements raisonnables chez des libraires passionnés, des gens qui vont vraiment défendre les livres et pas juste en placer une tonne en espérant qu'il y en ait 10 qui partent et nous en renvoyer 30. Puisqu'on marche en flux tendu, on ne veut pas faire de pilon, de choses comme ça. Donc c'est travailler, de toute façon c'est que des travaux des passionnés aussi bien après au niveau des libraires.
D'accord, donc cette étape qui était intéressante d'entre on a terminé le livre et à partir de là il ne nous appartient plus au lecteur, il y a la phase de comment on le commercialise. Et ce qu'on appelle justement les nouvelles formes d'édition, c'est aussi des nouvelles façons pour les éditeurs, on va en parler avec Jérôme, d'amener le livre au bon endroit, y compris en faisant soi-même un relais avec son site, avec une nébuleuse d'informations textuelles. Et de ce côté-là, Jérôme, tu as travaillé avec une fonction. Vous avez ouvert une librairie d'ailleurs, mais après, vous avez ouvert la librairie après avoir créé les éditions.
Alors, oui, nous avons ouvert notre propre librairie. Alors, l'idée, c'est effectivement que nous ne sommes pas Gallimard. Hein. La comparaison, c'est plus de l'ordre du Diplodocus et puis du petit rongeur à côté. On espère la météorite qui cassera le Diplodocus, mais bon, pour l'instant, on se contente de se faufiler entre les pattes. Effectivement, on essaye de faire ce que les grands éditeurs ne font pas, ou peu. Donc voilà. Et à partir de ce moment-là, puisque nous ne sommes pas Gallimard, même si je suis sûr que dans les couloirs de Gallimard, ils tremblent en entendant le mot QSF. Et que sans doute, c'est une peur irraisonnée qui monte en eux de plus en plus forte. Ils en font des cauchemars, hein, nous sommes un peu le riche. Globalement, c'est d'essayer de trouver toutes les formes de commercialisation pour que nous soyons dans les créneaux qui ne sont pas ceux de Gallimard.
Peut-être que pour que les lecteurs viennent nous chercher, en fait.
Voilà.
L'idée, c'est d'amener le lecteur à venir nous chercher par Internet.
Peut-être. Globalement, faire un livre, c'est relativement simple. Là, il y a même des imprimeurs qui vous font les maquettes, vous trouvez une couverture. Et puis arrive le moment d'apothéose où le livre sur lequel vous avez travaillé arrive en carton chez vous. Et à partir de ce moment-là, vous avez 300, 500, 700, 1000 bouquins dans votre salon. Au début, c'est dans le salon, après c'est dans le garage, après c'est chez les beaux-parents, enfin, toute une stratégie d'éparpillement du stock. Et à partir de ce moment-là, il faut bien les vendre. Donc effectivement, arrive la notion de commercialisation, puisque nous avons un objet, on y a mis tout notre cœur, mais maintenant, il faut qu'il trouve le lecteur. Donc l'idée, c'est de pouvoir à la fois bénéficier des libraires, c'est-à-dire pouvoir commercialiser les livres en librairie. Alors effectivement, nous n'avons pas le même nombre de commerciaux que Gallimard. C'est clair. Nous n'avons pas le même nombre de libraires, mais on peut s'appuyer sur un petit réseau de libraires passionnés. Enfin, nous, on travaille à peu près avec 80 libraires. Donc, ça va de la FNAC à la toute petite structure. Il y a l'impact d'Internet. Alors, on en parlait hier dans une autre conférence, mais l'idée, c'est qu'ActuSF, c'est d'avoir un média où on parle de l'actualité de tous les éditeurs, ce qui nous permet de parler aussi de notre actualité, même si parfois on s'oublie un petit peu là-dedans. Donc, avoir une grosse présence Internet. Utiliser les médias sociaux, faire des salons, c'est aussi notre raison d'être ici. Et puis il se trouve que dans l'évolution d'ActuSF, mais alors ce qui n'était pas prévu, mais vous savez, quand vous êtes éditeur, il y a des espèces de fantasmes comme ça. On se dit, oh, j'adorerais avoir une librairie. Et comme ça, un jour en France, il y aura une vitrine avec mes livres. Pas de Marc Lévy, pas de tout ça, juste mes livres. Et il se trouve que, par grande chance, ma femme est aussi éditrice, aussi indépendante, et elle avait à peu près le même fantasme que moi. On en avait d'autres, hein, mais enfin bon. Celui-ci, on le partageait, donc c'était plutôt pas mal. Et on a emménagé du côté de Chambéry, et comme on en avait assez travaillé dans le salon, on a cherché des locaux professionnels, et quitte à avoir des locaux et à payer pour une surface, autant avoir une vitrine. Et il se trouve qu'on a eu la grande chance d'avoir une vitrine. Donc, ce qui nous permet d'avoir un lieu d'exposition. Alors, c'est une librairie un peu particulière, parce qu'il y a d'abord des bureaux, et puis après, quand des libraires vont avoir 3000 références ou 10 000, nous, on a fait 40 livres, on en a fait 15. Voilà. Ce qui veut dire qu'on ne fait pas des ventes tous les jours, mais c'est aussi un autre canal, c'est aussi une manière d'être visible dans une ville et de s'inscrire dans une actualité culturelle ou tout du moins une politique culturelle de cette ville-là. Voilà, c'est une façon d'exister. À retenir globalement tout ça, c'est que tous les moyens sont bons pour vendre les livres. Donc voilà.
Et donc justement, on a deux auteurs qui eux aussi sont des auteurs entre guillemets modernes et qui par conséquent utilisent pour, je n'irai pas faire la promotion de leurs livres, mais pour que leurs livres soient visibles, soient entourés d'un ensemble d'informations, de paratextes, de références, utilisent Internet. Alors, utilise Internet soit en ayant leur site, qui sert d'ailleurs quelquefois à tout à fait autre chose, mais qui est aussi un site sur lequel l'élément figure, mais aussi en utilisant la notion même de référent, en participant à des forums, en participant à des cycles, et en ayant véritablement cette référence, cette indexation. Ce que Marc Lévy fait assez peu, je dirais, il en a peut-être moins besoin que vous, mais en tout cas, vous êtes des gens qui vous montrez et qui accompagnez votre texte d'un travail d'exposition, d'un travail qu'a priori on aurait pensé appartenant à l'éditeur. Mais vous le faites, pourquoi? Alors je le dis à Nadia, pourquoi toi justement as-tu eu envie de faire ça?
Alors, par rapport au site, enfin en tout cas sur Cociclic ou sur le site internet en tout cas, enfin...
Sur toi aussi.
Bon. Alors moi j'ai fait un blog d'écrivain, comme beaucoup, parce que simplement parce que j'ai pas énormément de mémoire et que je me rappelle pas forcément à quelle période j'ai commencé mon tome 2, à quelle période j'ai commencé à écrire le tome 3, où est-ce que j'en étais à ce moment-là de mes réflexions. Et on perd un peu le fil et du coup je me suis dit bah finalement voilà, un blog c'est facile à faire, je vais faire ça, mais s'il y a personne qui le lit c'est pour moi. Et puis à un moment je me suis dit je vais mettre mon premier chapitre quand même, parce qu'il y a quand même des collègues qui passent, des amis, c'est bien de parler du roman, mais c'est bien de pouvoir faire lire un petit extrait pour qu'ils voient un peu à quoi ça ressemble. Et en fait, par bouche à oreille, il y a un éditeur qui a entendu parler du bouquin et qui a lu ce premier chapitre sur le blog et qui derrière m'a demandé le manuscrit. Et un mois après, je signais chez Grunt. Donc ce blog qui était au départ pour moi, pour mémoire, est devenu le moyen de trouver un éditeur, alors que ce n'était pas du tout l'idée de départ. C'est ce genre de truc qui n'arrive jamais. J'avais même pas mis d'adresse mail pour être contactée. D'ailleurs, je me suis fait engueuler par un éditeur après qui m'a dit « Vous criez partout sur Internet, vous cherchez un éditeur et on ne peut même pas vous contacter. » Et du coup, c'était complètement surréaliste. Et en même temps, il m'a expliqué très simplement que c'était un moyen d'aller plus vite. Que s'il avait entendu parler du bouquin alors qu'il n'y avait pas Internet, ben, il m'aurait contacté quand même pour me demander de le lire. Mais le temps que je l'envoie par la poste ou autre, on aurait pris beaucoup plus de temps. Là, très vite, il a lu le premier chapitre, il savait qu'il voulait aller plus loin et il m'a demandé le reste par mail, il l'avait, il l'imprimait, il le disait. Enfin, c'est allé beaucoup plus vite. Donc c'est vrai qu'on gagne un petit peu de temps, mais voilà, c'est quelque chose quand même d'assez rare, j'en ai bien conscience.
Et c'est aussi une nouvelle forme d'édition, parce que tu as eu directement un rapport avec ton lecteur qui est un rapport immédiat, même si ton lecteur est devenu ton éditeur. Il y a ce phénomène qui est quelque chose qu'on réalise pas très bien dans la grande édition, mais ce qui paraît aujourd'hui chez Gallimard a été écrit il y a 2 ans, et quelquefois 3, et quelquefois dans le cadre d'un texte étranger, beaucoup plus longtemps que ça, parce qu'il faut compter le temps d'abord qu'il soit découvert, ensuite qu'il soit traduit, ensuite qu'il soit imprimé, qu'il soit mis sur une liste de lecture et de piles qui prend énormément de place. Tandis que là, on a l'impression que ça va, les choses vont plus vite, et qu'on a une espèce, pas d'immédiateté, mais en tout cas, on voit des auteurs qui vous disent « c'est chouette, grâce à ces maisons d'édition, à ces nouvelles formes d'édition, je rencontre des lecteurs qui ont lu mon livre 3 mois après que je l'ai terminé ou 6 mois après que j'ai terminé, donc je m'en souviens encore, et j'ai encore des choses à leur dire sur le sujet, je ne suis pas à fond dans le troisième après ça voilà. ». Ça, est-ce que c'est cette espèce de... Tu as eu ce phénomène-là, Paul, toi? Tu as eu le sentiment que les lecteurs te lisaient très vite par rapport à quand tu avais terminé?
Moi, je suis un très mauvais exemple. Je n'avais pas de blog, je ne mettais pas mon roman sur Internet. Je suis arrivé par la poste chez Mnemos, donc de façon tout à fait classique, une forme d'édition parfaitement ancienne. Je ne saurais pas répondre à ta question.
Mais par contre, maintenant, tu as créé ton blog, justement, qui est aussi un blog d'écrivain, les conseils de Tonton Béorn, hein, et puis tu participes à l'aventure Post-Cyclique. Donc il y a quand même un travail d'immédiateté, quelquefois de pouvoir montrer un extrait, et d'avoir une réponse tout de suite, et des choses comme ça.
Alors effectivement, on peut, par Internet, via les forums, poster des extraits qui sont commentés immédiatement par des lecteurs ou par d'autres auteurs amateurs, surtout quand on les connaît bien et qu'on s'échange des bêta-lectures. Et ça permet de progresser au fur et à mesure qu'on écrit. Et ça, c'est quelque chose de parfaitement nouveau par rapport à ce que j'avais connu moi quand j'ai écrit La Pucelle, c'était il y a 4 ou 5 ans. Donc là encore, comme tu disais, et j'avais pas ce retour.
Et justement, alors maintenant je repars de l'autre côté vers Magali. Étant donné ce que vous avez, étant donné le fait que la publication, par exemple la publication électronique, constitue quelque chose qui a l'avantage de pouvoir être essayé sans mise de fonds importante, parce qu'on n'est plus dans une phase de fabrication, on n'est pas dans une phase de distribution importante. Il y a juste, entre guillemets, à faire du boulot. Est-ce que vous avez envisagé ça? Est-ce que vous avez réfléchi à cette nouvelle façon de faire?
On l'envisage, c'est dans nos projets, mais par contre, si on le fait, ça sera avec de la façon qui coûte de l'argent, c'est-à-dire si on le fait, ça sera sous forme d'e-pub, de livres donc, qui seront réellement lisibles sous tous les formats et pas juste du PDF.
Oui.
Parce que moi en ce moment, je fais des lectures pour d'autres éditeurs rencontrés récemment. Et ils m'envoient des livres en PDF à lire, et j'ai lu les e-books, et le confort de lecture n'a rien à voir. Quand je dois lire un PDF et quand je dois lire un e-book, je vois vraiment la différence. Donc si on doit mettre griffe d'encre en numérique, ça sera vraiment du numérique avec tout le travail de l'e-pub que ça engendre derrière. Donc il y a quand même un coût qui est plus important que ce qu'on pourrait penser de visu. C'est pas juste, je passe mon fichier en PDF...
Non, mais donc, tu parles à quelqu'un qui a écrit le tutoriel pour faire des documents EPUB à partir de chez Word.
Oui. Donc, je l'ai pas, on l'a pas testé. On a déjà du mal de toute façon à faire, je t'avoue, tout notre, ce qu'on fait nous. Donc ça, c'est quelque chose qu'on délèguera. On le sait déjà.
Mais donc tu le délègueras. Mais est-ce que tu penses qu'en termes financiers, le risque est le même? Parce que selon Claire, imprimer un livre, ça coûte de l'argent. Et les éditeurs,
clair,
bêtement, ils demandent à être payés.
De toute façon, oui, ça coûte beaucoup moins cher de faire un e-pub. Parce que une fois que tu as fait ton fichier, tu as fait ton fichier. Alors que le bouquin, quand tu dois le réimprimer, tu repayes. Donc rien que là, même si tu passes par un professionnel pour l'e-pub, ça coûte moins cher. Le risque n'est pas du tout le même. Effectivement, pas du tout le même. Ça n'a rien à voir. Mais je pense que le gros avantage à l'heure actuelle de l'e-pub, c'est surtout la vitrine. Que ça donne, la visibilité que ça donne, tu as moins besoin des libraires, beaucoup de gens vont, enfin il y a beaucoup d'achats qui se font par internet, que ce soit aussi bien pour le livre que pour autre chose, donc ça donne une visibilité qui a rien à voir avec ce qu'on a à l'heure actuelle. Donc c'est, pour moi c'est plus un moyen de publicité de passer en format électronique à l'heure actuelle que...
Ça vous donne pas envie, justement, dans le cadre de nouvelles formes d'édition, de vous dire, grâce à l'électronique, je peux faire peut-être plus facilement des livres illustrés, qui coûtent quand même moins cher. Il coûte cher à produire, au sens où il faut que le dessinateur soit payé. Mmh. Mais l'impression, le travail, etc., est beaucoup moins.
Ils s'en vendent aussi beaucoup moins cher.
Ils se vendent aussi beaucoup moins cher. Mais justement, toi, Jérôme, tu as fait des choses genre L'amour selon les faits, etc., dans lequel le travail iconographique peut être extrêmement intéressant. Est-ce que tu te dis pas, tiens, la science-fiction étant aussi une littérature d'images, accessoirement, ou intégrant des images ou la fantasy, est-ce qu'on n'a pas envie de se relancer dans le livre illustré, qui correspond à une attente de lecteurs, semble-t-il, puisque ceux qui étaient aux Utopiales il y a quelques mois se souviennent de Scott Westerfeld présentant son roman pour enfants, enfin pour adolescents, avec des tas d'illustrations, comme on faisait les Jules Verne à l'époque, là vous savez, avec des tas d'illustrations en bois, en se disant, il y a moyen de faire. Et ça, l'électronique le permet avec des coûts raisonnables, même pour une petite structure.
Ouais, mais je suis grosse feignasse. je suis effectivement un petit éditeur et je suis d'assez près tous les formats e-pub, etc. Et toute cette espèce de projet de livre numérique, ça m'intéresse au plus haut point. Je pense que c'est encore pas mal le merdier sur pas mal de points techniques, mais qu'il y a des choses qui avancent au fur et à mesure. Mais j'avoue que je suis un peu feignant sur le sujet, mais à coup de pas, pour deux raisons. D'abord parce qu'on n'a pas tout réglé, car je vais même en dire trois. Pour une deuxième raison, c'est que les journées sont assez bien occupées, pour ma part. Et puis la troisième raison, en fait, la vérité, c'est que ça demande un investissement temps. Alors, je parle pas financièrement, pardon. Et que je ne suis absolument pas convaincu d'en vendre une quantité suffisante pour que c'est un impact ou un effet véritablement positif. Simplement parce que ça m'intéresse pas de vendre un livre numérique au même prix que le livre papier.
Bien sûr.
C'est une évidence. Or, aujourd'hui, on retrouve, j'ai le même problème sur le livre numérique que chez Gallimard, qu'avec Gallimard en livret. C'est-à-dire que le jour où Gallimard, ils ont réglé pas mal de problèmes chez eux, notamment, enfin bref, et qu'ils feront vraiment du livre numérique, ils risquent d'en vendre beaucoup et moi assez peu. Donc, j'ai pas encore passé le cap de me dire, ok, je vais y consacrer un temps X pour en vendre 100, 200 ou 30 exemplaires. Mais c'est de la fainéantise. On est bien d'accord, je ne suis pas du tout contre le livre numérique, pas du tout. Je trouve ça génial, je trouve ça vraiment génial. En plus, effectivement, l'idée de pouvoir illustrer le bouquin et même d'ajouter plein de trucs en numérique, c'est très bien. Mais j'en suis pas encore là. Je l'avoue et je vais même faire une confidence, une affreuse confidence, c'est qu'on m'a offert une liseuse pour mon anniversaire. Peut-être même que c'est moi qui avais donné l'idée à la personne qui me l'a offert. Et en fait... Alors, je suis né un 18 novembre, hein, comme ça vous pourrez m'envoyer des mails la prochaine fois, mais je l'ai toujours pas utilisé. Voilà, je suis une feignasse, j'aime le papier, et c'est pire que ça, je lis des manuscrits. D'ailleurs, je suis pas du tout écologique, je les imprime, c'est tellement plus simple, donc voilà.
Et si on te faisait un cadeau, si on disait, tiens, on t'offre un de tes titres, n'importe lequel, on te fait la fabrication de l'EPUB de bonne qualité, à toi de voir ce que tu en fais pour essayer, est-ce que tu l'accepterais ou est-ce que tu
Alors, dirais, oui, ou... oui, non, mais en fait, enfin... Pour moi, c'est un faux problème, c'est-à-dire que faire un livre numérique, c'est très bien, mais si c'est juste pour le mettre en numérique et pas du tout faire de promo autour, et pas du tout essayer de le vendre, et pas du tout essayer de le pousser, ça sert à rien. Et ça, c'est un problème de temps après, tout simplement, de communication. Donc ça m'intéresserait, évidemment, d'avoir un livre numérique, mais d'abord, il faut que j'en parle à l'auteur et régler les droits. Et en plus, si je ne m'abuse, il y a certains projets de collectifs d'auteurs qui pourraient régler une partie de mes problèmes de fainéantisme. Oui, ça m'intéresse, mais à condition que je dégage assez de temps pour... Tout simplement. Ouais, oui, pour lancer le truc. Hein. Et puis, il faut que ce soit en accord avec le temps. Bon, on parle de Sylvie Lainé. J'adorerais sortir les livres de Sylvie Lainé. Mais si c'est un non-événement, c'est-à-dire que si je fais ça un 15 août, ça ne sert à rien. On aura perdu du temps, elle aura perdu du temps, et voilà. Par contre, si on le pousse et qu'on prend le temps d'eux, alors pourquoi pas.
D'accord. Donc ça veut dire que là, typiquement, on est dans une situation dans laquelle une nouvelle forme d'édition entraîne de nouvelles formes de trouver le lecteur susceptible d'eux. Parce qu'une des choses passionnantes dans la mini-édition, dans la micro-édition, c'est qu'on a la possibilité d'essayer de détecter le public ciblé, le tout petit nombre de gens, mais qui sont directement intéressés par ce qu'on fait. Et parce qu'on a Internet, parce qu'on a des structures souples, parce qu'on peut réfléchir à des façons de promouvoir ce que l'on a produit de la bonne façon, on peut faire un travail de souplesse que les grands éditeurs ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas le temps, tout simplement. Rajlon sort 200 bouquins par an, on n'a pas 200 personnes qui vont créer à chaque fois 200 campagnes de pub spécialisées sur un truc. Quand on en fait 4 par an, le problème est différent.
Mais en fait, je te coupe simplement. Je pense que c'est un peu pareil qu'on m'avait dit. Nous sommes des petits éditeurs, nous sommes dans des créneaux que les grands éditeurs n'utilisent pas très bien. Mais on arrive fondamentalement à un problème de temps. Et effectivement, Brajolone sort 200 titres et c'est vachement bien, mais aujourd'hui, matériellement, comme on fait la petite édition, c'est de tout faire, hein, de la secrétaire au café en passant par la maquette, il n'y a que 24 heures dans une journée.
Tu demandais la grosse différence, je coupe Jérôme, mais c'est vraiment voilà, la grosse différence entre Gallimard et nous, c'est que Gallimard, ils ont un employé pour chaque poste. Nous, on a plein de postes pour chacun, enfin tous les postes pour un employé, quoi, en gros. Donc du coup, tout faire...
Et donc on a des auteurs qui travaillent, je pense à Nadia en particulier, qui travaille avec un éditeur qui n'est pas Gallimard. Et donc est-ce qu'il y a un travail à ce moment-là complémentaire de ta part à dire, moi j'ai à construire un accompagnement du livre de mon côté, pour aider par rapport aux références, pour aider à ce qu'on me voit, pour aider à ce qu'on me trouve? Est-ce que ça veut dire plus de participation à des salons? Est-ce que ça veut dire un fonctionnement différent? Ou est-ce que c'est être un auteur comme tous les auteurs
Alors, moi, j'ai la chance au niveau de Grunt d'être très bien suivi en termes de communication. Il y a des gens qui sont vraiment spécialisés là-dedans, c'est leur travail et ils font ça très bien. Et du coup, il y a une communication qui est faite sur le roman, qui a été faite à un moment de la sortie, qui continue à être faite. Enfin, il y a vraiment un suivi de ce côté-là. On ne me demande pas, moi, de faire la com. Ce n'est pas mon travail. Moi, on me demande d'être présente en salon éventuellement, d'être présente en séance de dédicace et de ne pas agresser mes lecteurs quand ils viennent me parler. Mais à part ça, moi, ce n'est pas à moi de faire les démarches. Je ne m'auto-édite pas, quoi. Ce n'est pas moi qui vais faire la pub pour mon roman. Des gens viennent me voir dans mon village en me disant « Est-ce que je peux te l'acheter ?» J'en ai même pas, je peux pas en vendre. Enfin, donc voilà, donc il y a vraiment... c'est vraiment...
Mais ce travail d'accompagnement te fait pas envie. Ou Paul, est-ce que tu as envie quelquefois de te dire que mon blog peut aussi servir d'une certaine façon à rendre visible l'ensemble de ce que je fais?
Alors oui, évidemment, l'auteur peut avoir un rôle dans la promotion de son roman. Via son blog, via les rencontres qu'on fait dans un salon, via la communication qu'on peut faire par des interviews. Mais comme dit Nadia, le principal travail de l'auteur, c'est quand même d'écrire un roman. Et le principal travail de l'éditeur, c'est de vendre le roman. Je pense qu'on peut pas non plus tout mélanger. Hein.
Au niveau de la com, juste une petite nuance que j'apporterai à ce que j'ai dit, c'est au niveau des pages Facebook. Parce que jusque-là, c'était géré par une boîte de com qui était dévouée pour ça et qui gérait la page Facebook Fédélie. Et moi, en tant qu'auteur, j'étais juste un petit peu crispée parce que c'était pas du tout forcément la com que j'aurais fait sur le roman. C'est pas forcément c'était des gens qui l'avaient lu, mais qui n'étaient pas, qui connaissaient pas l'univers comme moi. Et forcément, j'avais envie quand même d'avoir une part de contrôle là-dessus. Et j'ai demandé gentiment si éventuellement je pouvais avoir des accès pour moi aussi, mais des infos pour éventuellement dire les dates de dédicace, pour donner des infos sur le tome 2 ou des choses comme ça. Et j'étais plutôt bien accueillie de ce côté-là. Et maintenant, je peux aussi participer à la communication là-dessus et pas être complètement dépossédée de cette partie-là. Donc j'ai quand même mon mot à dire dessus.
Vas-y. Si je puis me permettre. C'est super important. C'est super important. Nous, avoir un auteur qui communique, qui est dynamique, qui a envie de défendre son livre, c'est super important. Avoir un auteur qui aime son livre, c'est super important. Ça, c'est tout bête, hein, mais arriver devant Sylvie Lainée, avoir son sourire, discuter 5 minutes avec elle, on vend vachement plus de livres que quand on a un auteur qui fait la tronche et qui en plus tourne le dos en séance de dédicace. C'est une évidence, mais un auteur qui nous accompagne dans la communication, voire même qui nous dépasse, moi je veux bien être à la traîne, pour nous, petite structure, c'est super important. Voilà.
Est-ce que ça veut dire que ces nouvelles formes d'édition entraînent une répartition de certaines tâches entre l'auteur, alors autour par exemple des problèmes du critique? Parce qu'à ce moment-là, le problème du service de presse devient crucial dans votre cas, puisque les livres sont chers, les envois sont chers. Donc, vous faire voir par des critiques qui reçoivent trop de livres et qui ont énormément de mal dans le tas à extraire quelque chose, c'est difficile. Donc, est-ce que ce travail-là ne demande pas une répartition différente?
Pour nous, en termes de... Il arrive que les auteurs viennent nous voir en disant bah, « Tiens, j'ai rencontré un tel sur un salon qui peut me faire un article dans tel journal ou quoi, est-ce que tu peux lui envoyer un SP ?» Ça arrive, c'est quand même nous qui nous occupons des SP, mais effectivement, l'auteur, enfin même pas que sur une petite maison d'édition, je pense que n'importe quel auteur qui a envie de défendre son bouquin, il rencontre quelqu'un par hasard qui peut lui donner une visibilité, il va lui en parler et il va en parler à son éditeur. Ça reste après, sinon pour tout le reste, je pense que c'est un travail de coopération. Il y a des choses qui... Voilà, l'auteur qui a un blog, forcément, ça va lui servir à parler de son livre. C'est pas voler le... C'est pas faire le travail de l'éditeur non plus, ça. Après, il y a aussi l'éditeur à faire son boulot, effectivement, à envoyer à un minimum des SP ou à faire des partenariats avec... parce que maintenant, ce qui marche beaucoup pour les SP, justement, par rapport aux nouvelles technologies, plus qu'un livre dans un magazine ou quoi que ce soit, c'est les blogs. les blogs de lecteurs qui ont une très forte communauté, très, très importante et très liée. Ils se conseillent, c'est de très gros lecteurs qui se conseillent les livres les uns les autres. Et c'est, ça passe aussi beaucoup par là. Mais bon, je pense que il y a un petit côté service après-vente de l'auteur, en fait, hein, qui est d'être, comme disait Jérôme, bah, quand il est sur les salons, être souriant, avenant, et donner aussi envie de partager la passion qu'il a mis dans son œuvre.
Oui, mais vous êtes dans une situation un petit peu différente. Gallimard impose le livre chez le libraire, si je puis dire, enfin, Gallimard les autres, le distribue, le met là, à charge pour le lecteur qui passe devant la table, de le prendre. Vous imposez au lecteur d'aller se connecter sur votre site pour l'acheter. C'est-à-dire que vous lui demandez une démarche volontariste, à la différence des anciennes techniques d'édition, où à la limite on vous met le truc devant et si ça vous fait envie, si vous avez faim, vous allez le prendre. Bah, là, aussi... il faut avoir faim avant et aller demander.
On va aussi là où les gens vont déguster, c'est-à-dire dans les salons, et là on va... Il y a aussi, on se déplace, mais même, tu prends même une grosse maison d'édition, si elle prend un auteur qui se déplace beaucoup en dédicace et un autre auteur qui ne se déplace pas du tout, deux nouveaux auteurs, celui qui se déplace en dédicace et qui va aller, en quelque sorte, assurer ce service après-vente, d'être là et de représenter son livre, vendra quand même beaucoup mieux que celui qui ne se déplace pas du tout.
Pas toujours, mais bon, c'est souvent ce qu'on
sur croit. Des nouveaux.
Sur les nouveaux.
Sur des tout nouveaux, hein, je te parle pas de... Et avec même comme...
Vas-y. Je pique le micro. En fait, je suis d'accord et je suis pas d'accord. Dans le sens où, comme on est... notre plus gros client, c'est la FNAC. Donc du coup, des ventes par hasard, c'est-à-dire un type qui irait dans une FNAC X et qui tomberait sur nos livres, c'est possible. Mais tout ça, c'est une affaire de séduction. Ce qui veut dire, en fait, il faut mettre une politique de séduction vis-à-vis des libraires. Nous aimons les libraires. Mais comme j'ai dit, pour nous tout est bon pour les vendre. Donc nous aimons aussi les lecteurs. Voilà. Nous aimons un peu tout le monde pour qu'ils nous achètent des livres. Donc ça veut dire que, en fait, tu as raison dans le sens où sans doute que Grund et Gallimard ne font pas les efforts que nous faisons pour attirer les gens sur Internet. Quoique, tu parlais de page Facebook et ça se développe. Hein, j'ai lu à des pages sur Facebook, à des Twitter, etc.
Ils ont des pages par titre et pas par maison d'édition. Ouais. C'est carrément, maintenant, c'est chaque titre à sa page. Alors que nous, on en a pour... Si on faisait une page par...
C'est ça, il y a un nouveau poste, qui, c'est Media Manager. Hein?
Community Manager.
Community Manager, yeah. Une belle époque. Non, mais enfin, voilà, ils ont des gens pour tout le monde et ils sont de plus en plus sur Internet, mais nous, en tant que petits éditeurs, on est obligés de draguer tout le monde. Donc, nous draguons les libraires, nous draguons les lecteurs, nous draguons les salons en disant « Hey, vous avez un stand pas cher pour nous. Hey, on a des auteurs, vous voulez pas les inviter ?» Ça fait partie du job. Voilà, on drague les bibliothèques, c'est fou ce qu'on drague.
Il
habite pas loin de chez vous, il est chez vous. On drague les journalistes, on drague les blogueurs, on drague tout le monde, quoi. Voilà. J'ai arrêté l'enregistrement, j'ai une femme quand même.
D'accord, mais justement, vous parlez d'une maison d'édition, dans la grande maison d'édition, qui a un community manager, qui a un service de presse, qui a un service d'attaché commercial, contractuel, etc., etc. Et vous arrivez, tu me dis, on est tout, on fait tout seul, on est donc, t'es vraiment doué comme garçon, je veux dire, que fais-tu de tes nuits?
C'est une question.
On imagine assez bien, on lit un manuscrit.
J'ai vraiment arrêté pour ma femme.
Pendant qu'on prépare le Facebook d'une deuxième main, qu'on fait le courrier de refus d'une troisième,
mais en fait,
avec les deux pieds.
Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait une pub pour la petite entreprise qui passait sur la radio ou à la télé, où on voyait un mec qui décrochait le téléphone et qui disait « Machin service, bonjour !» Et la voix à côté disait « Oui, bonjour, je voudrais le service des achats. » Et le type se retournait et disait « Oui, bonjour, le service des achats. » Bah non, je voudrais le service financier. » Et il passait sur une chose et disait « Oui, bonjour, c'est le service financier. » Bah voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire, je suis la secrétaire. Pas que. Nous agissons à tous les niveaux et nous y mettons l'enthousiasme que nous pouvons, et c'est parfois ce qui fait la différence, parce que je pense que nous étions avant les grandes maisons d'édition sur Facebook, par exemple, hein, ou sur Twitter, et on y met tout l'énergie qu'on peut, et ça veut dire qu'à 17h, la journée n'est pas terminée, et quand j'ai fait les 35 heures, en général, c'est le mardi soir, quoi. Donc voilà, on y met du temps, de l'enthousiasme, de l'énergie. Ce qui dévalorise pas du tout les grandes maisons d'édition, ce qui veut pas dire qu'on est des surdoués, simplement on s'adapte. Voilà, le chef d'entreprise c'est ça. C'est-à-dire que on dit ouais, on fait un livre, ok, qui fait la maquette? Ok, je vais faire la maquette. D'accord, ok. Ok, la quatrième de couverture. Oh, ok, les libres. Voilà, ça se gère comme ça. C'est un peu schizophrène de temps en temps. Mais voilà, et puis après, chez nous, on est tout un groupe, donc j'ai Eric Holstein qui s'occupe que des couvertures, par exemple, et il le fait très bien, et il le vaut bien. Voilà, on a Charlotte Volta qui s'occupe de la communication, aussi. Etc. Nous avons deux stagiaires, nous exploitons deux stagiaires en ce moment. C'est cool. On n'est pas que tout seul, mais effectivement, les nuits sont courtes.
Oui, d'accord, certes. Mais alors justement, à partir du moment où vous avez créé, entre guillemets, quelque chose de nouveau et de nouvelles formes de fonctionnement, est-ce que vous n'avez pas intérêt à vous concentrer sur de nouvelles formes peut-être de commercialisation, à ne pas essayer d'attaquer les gros sur leur terrain, parce que comme tu dis, ils sont gros, mais à dire, tiens, ben, il y a des tas de trucs qu'ils ne peuvent pas faire eux parce qu'ils n'y pensent pas ou parce qu'ils n'ont peut-être pas l'intelligence de le faire. Et nous, on est créatifs, on fait... Hein, Magali?
Je pense qu'on aimerait beaucoup, mais c'est... Enfin, il y a plein de choses, on se dit, on veut faire ça, ouais, ça c'est génial, ça faut qu'on le fasse maintenant, c'est une super idée. Et comme il dit, qui le fait? Ah bah moi j'ai déjà la maquette, moi j'ai déjà les corrections, attends j'ai 3 mois de retard sur mon planning, je sais qu'il y en a quelques-uns qui attendent des réponses pour les anthologies, il va falloir attendre encore un peu, hein. Voilà,
c'est... C'était un message sponsorisé.
Mais ça arrive, j'y travaille un peu la nuit, et voilà, on a vraiment envie, il y a plein de choses à faire. Et le temps nous manque et on le voit qui court, on aimerait être là avant les grands, on aimerait... Mais c'est vrai que c'est pas évident. Et c'est très frustrant. C'est vraiment terriblement frustrant de voir toutes ces choses qu'on a envie de faire et que pour l'instant on n'arrive pas à faire. On espère. Alors, il y en a qu'on pense faire très bientôt, mais on n'ose même plus en parler parce qu'on se dit qu'on a tellement de retard sur ce qu'on fait déjà normalement. Là, voilà, il y a des choses dont j'aimerais parler aujourd'hui. Je me dis, je vais me taire parce que sinon, si ça se fait pas dans un mois, deux mois.
Surtout que c'est enregistré. Hein.
Voilà, il y aura des preuves et mince. Donc on est un peu coincé par ça, mais on a plutôt tendance à être toulou, surprise, on l'a fait. Plutôt qu'on va le faire.
On va être vicieux là, mais je retourne vers Nadia et vers Paul. Supposons que d'un coup de baguette magique, je fais ça très bien, je vous transforme en auto-éditeur. Je dis voilà, vous êtes maintenant les responsables de l'édition de votre propre livre. Partons du principe que vous avez déjà la couverture, que vous êtes déjà pratiquement l'objet livre. Qu'allez-vous faire? Vous vous dites tiens, je vais faire un truc totalement moins nouveau, créatif. Où est-ce que vous iriez? Voilà. Dans ces cas-là, c'est pour ça que les auteurs ont besoin d'éditeurs. Hein. Il faut comprendre. C'est une chose. C'est intéressant de le montrer, mais c'est important. Mais vas-y, rêvez.
Moi, je voulais vendre mon roman auto-édité. Je commencerai par laisser tomber mon boulot actuel et je me consacrerai à ça à temps plein. Parce que je pense que c'est un vrai travail. Donc, j'irai démarcher des libraires et déjà parce que oui. Mais effectivement, sur Internet, il y a tout un travail à faire. Je pense que je nourrirai mon blog beaucoup plus qu'actuellement, où j'ai tendance à le laisser en jachère un peu trop souvent. Et j'irai sur Facebook où je serai très présent sur toutes les pages de tout le monde. Ça me prendrait un tour fou. Et à mon avis, on perdrait en qualité du roman parce qu'on n'aurait plus le temps de se consacrer aux recherches, à l'écriture, au style, etc.
Ce qui est intéressant, c'est que à un moment donné, il y a quelque chose qui me frustre moi personnellement. Il y a tout ce qui concerne l'entourage de votre roman, le paratexte, les mots-clés, etc., dont vous vous diriez. A priori, vous savez de quoi vous parlez, vous savez quel est le type de public susceptible de s'y intéresser. Avez-vous la possibilité d'ajouter de l'information à votre texte, non pas de l'information du livre, mais de l'information commerciale autour du livre, de dire, ce serait bien que Facebook, quand on tape le mot-clé, je ne sais pas, Mar, Nénuphar, etc., on tombe chez moi. Tu vois, ou Pucelle, qu'on tombe chez toi. J'en sais rien. Mais quelque chose comme ça. Pucelle, à mon avis, ça marcherait vachement mieux. Si quand on tape Pucelle, on tombe chez lui, là, il va faire un pognon, ça va être quelque chose de phénoménal. Mais pourquoi pas? Tu vois ce que je veux dire? Donc, réfléchir à dire, ok, j'inscris mon livre dans un ensemble de catégories, dans un ensemble de types de lectorat, dans un besoin, dans, je sais pas, en disant, je viserai telle tranche d'âge. Toi-même imposer ou suggérer quelque chose qui va
bien. Moi, je pense que, enfin, la démarche de l'auto-édition, c'est vraiment quelque chose de particulier. Et pour ce que j'en vois, c'est un petit peu agressif au niveau du lecteur, parce que les auteurs qui ne sont pas commerciaux, qui ne sont pas, c'est pas leur métier, et du coup, ils ont tellement envie de parler de leur roman, tout le monde, ils ont tellement envie d'en vendre. Que, ils vont aller envoyer des espèces de mails à tout le monde, tout le temps, et du coup après on va avoir une espèce de démarche de recul quand on va dire ah non, parce qu'on sait pas quelle qualité il y a derrière, en se disant, il n'y a pas eu la validation de quelqu'un d'extérieur, d'un professionnel qui a dit oui, ce roman mérite, moi j'ai envie de le défendre. Et quand c'est l'auteur lui-même, il y a forcément cette question de la qualité ou pas. Et mon roman n'était pas meilleur avant d'être publié que maintenant, quoique il y ait eu du travail éditorial de fait. Mais en tout cas, ce n'est pas le fait qu'un éditeur m'ait dit oui qui lui a donné sa valeur. Pourtant, dans les yeux du lecteur, ça l'est.
Mais je voudrais ajouter une chose si tu veux bien. Ce que tu nous proposes, Jean-Claude, c'est vraiment un cauchemar. Moi, j'ai toujours rêvé d'être auteur et d'écrire des romans et d'en rencontrer un public. J'ai jamais rêvé d'être commercial VRP. C'est un boulot tout à fait honorable, mais c'était pas du tout ce que je voulais faire. Voilà. Maintenant, c'est quand même intéressant de faire la publicité de son roman. Mais d'affaire avec le soutien d'un éditeur qui peut nous conseiller, qui sait à qui parler et qui nous dit aussi quelle bêtise ne pas faire. Parce que comme dit Nadia, comme c'est pas notre travail, on risque de faire d'énormes bêtises.
Attends, moi il y a une chose quand même qui me frappe dans ce qu'a dit Nadia. Nadia dit j'aurais envoyé des mails à tout le monde pour dire mon roman.
Je l'aurais pas fait, mais je vois les gens que le font. Ouais.
Parce que clairement, moi en tant que membre d'un jury, je reçois le service de presse et effectivement, juste avant de venir ici, j'ai reçu un bouquin dont l'attaché de presse m'expliquait que c'était vraiment le meilleur bouquin de l'année et que c'était d'ailleurs un mélange de trucs avec Tolkien et Conan Ward. Et vraiment, c'était le problème. Ça m'a peut-être moins motivé parce que c'était très exactement le 21e que je recevais depuis 3 semaines avec exactement le même genre de trucs. Donc, à un moment donné, quand on arrive au 5e mois de l'année et qu'on a déjà reçu 100 fois le meilleur bouquin de l'année, on a tendance à peut-être relativiser un petit peu les choses. Donc les éditeurs font rigoureusement la même chose que ce que tu aurais fait, et le font sans aucun état d'âme. Je n'ai jamais vu une attachée de presse disant « je t'envoie du tout venant, hein, t'attendras peut-être la prochaine fois, il y en aura peut-être un de bon ». Là, vraiment, écoute, c'est sympa, mais c'est vraiment si t'as rien d'autre à faire, quoi. Ça, j'ai pas vu. J'ai par contre vu des attachés de presse dont le boulot, et c'est un très bon boulot, consiste à dire « ce livre est passionnant pour telle raison ». Et le travail de micro-édition, c'est peut-être « ce livre » que je trouve passionnant pour un certain nombre de raisons, et passionnant pour cette catégorie de gens, et je dispose de la souplesse, à la fois de la souplesse de fonctionnement et de la souplesse d'esprit, pour le leur amener à eux directement. Et c'est ces nouvelles formes-là qui seraient mériteraient d'être explorées.
Enfin, ça, tu as raison. Mais.
Mais il y a combien d'heures par jour, c'est ça ?
Non, c'est pas ça. Je fais des livres que Gallimard ne fait pas. D'accord ? Ils sont un peu fous parce que je viens de sortir un recueil de nouvelles de George Martin. George Martin, c'est le meilleur livre du monde. D'accord ?
Oui, voilà. On est d'accord.
Le meilleur livre de l'année, c'est un recueil de nouvelles. Je ne sais pas pourquoi Gallimard ne le fait pas, donc je le fais chez moi. Alors, évidemment, je le fais en tant qu'éditeur, dans un sérail de l'imaginaire, avec un média qui parle au lecteur d'imaginaire. Néanmoins, je ne suis absolument pas contre qu'il soit dans toutes les FNAC de France et dans toutes les bonnes librairies. En fait, je travaille pour un lectorat particulier, d'accord, mais pas que pour lui. Oui. C'est-à-dire que évidemment, Robert Heinlein, c'est un bouquin un peu particulier, c'est un auteur un peu particulier. Je vais essayer de toucher des gens qui aiment une certaine science-fiction, qui est en plus un petit peu marquée puisque les nouvelles sont des années 40-50, un type de lecteur. Mais néanmoins, quand je fais le salon du livre de Genève, et je peux vous dire qu'il n'y avait pas beaucoup de stands de science-fiction à Genève, globalement, on avait 1 mètre carré, c'était nous. C'est pas tout à fait vrai, Marjolaine avait un stand. Mais nos livres se portaient plutôt pas mal. Et de tous les éditeurs du petit stand de Ronald, on était 9, on était tout seul à être contents. Simplement parce que, sans a priori, expliquer online à quelqu'un qui a juste flashé sous la couverture ou le bandeau ou qui est venu là par hasard complètement ou qui attendait sa femme, si on utilise les bons mots, il peut repartir, il peut tout à fait le lire et en plus l'apprécier, quoi. Alors évidemment, on a un peu plus vendu l'amour selon les faits et le guide des faits, hein. Plus ça parle de séduction et de sexe, on avait tout bon. Mais ce que je veux dire, c'est que nos livres sont pour un lectorat particulier mais peuvent se lire pour tout le monde et c'est bien simplement par manque de moyens qu'ils ne sont pas à disposition de tout le monde. Néanmoins, donnez-moi le loto, et je vous promets qu'on sera partout, et qu'on en vendra plein. Parce que je crois en mes livres, parce que les livres que je fais, ce sont à la fois des coups de cœur, mais je pense sérieusement que les 4 nouvelles de George Martin qui sont là, ça devrait être dans toutes les bonnes bibliothèques. Et j'espère qu'il y en a plein des bibliothèques personnelles.
Mais il y a aussi, je dirais, l'étape d'après, qui est presque le passage absolu, où à un moment donné, on dit, affranchissons-nous de l'idée même de publication, mais lisons-nous les uns les autres. Lisons-nous les uns les autres. Il y a un exemple, j'ai deux petits camarades à ma droite, là, qui appartiennent tous les deux à un collectif qui s'appelle Cocyclix, où justement, on fait de la bêta-lecture. La bêta-lecture, c'est, on met un bout de son texte, ou quelquefois son texte, pour que d'autres puissent le lire, à charge pour les autres de dire ce qu'ils ont lu, ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont reçu. Pas le dire « oui, moi, à ta place, j'aurais fait comme ça », parce que les autres sont aussi des écrivains. Mais dire plutôt « voilà ce que j'ai lu, voilà ce que ton texte m'a dit, si c'est ce que tu voulais qu'ils me disent, ben, tu as réussi ton coup. Si c'est pas ça, ben, il faudrait peut-être réfléchir à pourquoi moi j'ai lu ça et pourquoi toi tu as cru que tu disais autre chose. Bon. » Mais ça veut dire que littéralement, on met en place une espèce d'agora dans lequel on peut, grâce à l'électronique et à un prix nul, puisque c'est gratuit, mettre du texte à lire. Et est-ce qu'on peut imaginer un futur dans lequel, ben, au lieu d'aller acheter un livre, on irait sur un agora dont on aime bien la fréquentation, simplement pour humer, respirer, picorer les textes des uns des autres, qu'on se serait mis en bêta lire, avec y compris ce travail d'interaction en disant, tu sais, il me plairait mieux si... Et revenir deux jours après et dire, ben tiens, c'est vrai qu'il est mieux maintenant, comme ça. Donc ce travail-là. Est-ce que vous avez le sentiment peut-être qu'à un moment donné se construira une espèce de bibliothèque de ce genre-là, ou, je sais pas, une librairie de choses agréables, de textes
Nous, sur Cocyclique, le principe, c'est effectivement ça, de la bêta-lecture, mais pas tellement pour le plaisir de lire les textes. Hein. On est très content de découvrir les textes en avant-première, et souvent on voit derrière ce que ça pourrait donner si ça s'était transformé en roman. Mais en fait, le but, c'est surtout d'aider les auteurs à arriver à une qualité d'écriture et de style et de cohérence de leur roman ou de leur nouvelle qui permet de faire gagner du temps aux éditeurs en leur proposant justement un petit peu de temps et beaucoup de manuscrits à lire. Si déjà ils reçoivent des manuscrits propres, cohérents, avec un auteur prêt à bosser, eh ben, peut-être que ces manuscrits-là auront plus de chances de trouver un éditeur et d'exister. Après, que ce soit en format papier, numérique ou autre, ça sera la vie du livre. Mais en tout cas, le but de Cocyclique et de la bêta-lecture comme on l'entend, c'est pas tellement de se limiter à une bibliothèque de textes qu'on s'échangerait entre nous, mais vraiment une émulation, une progression pour avoir de plus en plus de bons textes qui sortent et qui sont en librairie d'auteurs français, francophones, pas forcément connus au départ.
Donc vous renoncez pas à l'étape publication. Mais vous avez réfléchi à l'étape d'après, de se dire, ben après tout, on peut se contenter d'être là, parce que c'est un certain nombre de gens le font, en disant, mon livre, je ne le soumets même pas au processus d'acceptation d'un éditeur, parce que soit ça me paraît pas possible, soit quelquefois j'ai essayé, ça a pas marché, soit même ça me paraît tellement étranger à ma démarche que j'ai pas le réflexe de faire. Par contre, être lu, être vu, ça veut dire, je me mets là, je mets des mots-clés autour de mes pages, j'en parle, et on espère que quelqu'un passera. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de se produire. Est-ce que ce n'est pas la forme ultime d'édition où il y a littéralement dissolution de l'édition?
Alors, à ce moment-là, d'accord. Alors, c'est vrai qu'en plus, ça existe depuis très longtemps sur Internet. Et on peut même.
Très longtemps sur Internet, tu sais, ça fait à peine longtemps.
Hein. L'ère des dinosaures, ils n'avaient pas. Mais notamment pour les sites de fanfiction. Qui sont, pour le coup, là, c'est vraiment du plaisir, quoi. Pour le coup. Néanmoins. Pour recevoir un certain nombre de gens qui m'envoient des manuscrits ou qui viennent jusqu'à la librairie avec des manuscrits, alors qu'on ne l'a pas demandé, je me dis que culturellement, l'acte de publication et d'avoir un livre est encore quelque chose de très fort et de très ancré dans les esprits. Et c'est aussi pour ça qu'il y a autant d'auto-édition, parce que avoir un livre, faire son livre, l'avoir dans les mains physiquement, avoir ses cartons de livres dans son salon, ça veut dire encore quelque chose. Et c'est assez étonnant, hein, l'ère du numérique, mais il y a encore... J'ai pas encore rencontré quelqu'un, ou alors j'ai des doutes, j'ai des soupçons sur sa bonne foi, qui me disent, moi je mets juste des textes sur Internet, et c'est tout, et je me contente des lecteurs.
Au-delà du besoin de partage, il y a peut-être un besoin de reconnaissance aussi que n'apportera pas le partage libre comme ça sur Internet. ça apporte quand même une reconnaissance, le passage en papier.
Est-ce que tu disais, Jean-Claude, par rapport au fait que quelqu'un, juste en mettant des liens, en disant venez me lire, en fait, on se rend compte qu'il y a quelques personnes qui essayent ça, qui se disent un petit peu dans la démarche de l'auto-édition, qui vont faire leur pub, qui vont dire bah, tiens, j'ai trouvé des tas de gens comme moi qui pourraient peut-être me faire de la pub, acheter mon livre, etc. Et en fait, ces personnes-là qui sont juste sur la publicité, bah, ça ne fonctionne pas très longtemps parce que le collectif, et en tout cas les auteurs qui font le noyau dur de Cocyclix sur la bêta lecture, sont vraiment des gens qui sont là pour s'améliorer et pour aller jusqu'à l'éditeur et pas pour faire leur publicité entre eux. On est nombreux, mais si on s'achetait juste nos livres entre nous, on n'irait pas bien loin, quoi.
Donc ce que tu es en train de me dire, et c'est une conclusion que je trouve tout à fait passionnante, c'est que la micro-édition, les nouvelles formes d'édition, l'arrivée de l'internet, de la bêta lecture, ne fait que légitimer, une fois de plus, le processus même de l'édition, qui est un texte a besoin d'être édité, il a besoin d'être accouché, il a besoin d'être accompagné pour l'arrivée vers le livre, qui est l'objet final. Le texte lui-même n'est pas encore suffisant. Et ça, écoute, c'est une très très grande satisfaction, parce qu'il y a d'un côté, moi j'ai à ma gauche des gens qui ont envie que ces textes soient accompagnés jusqu'au livre, et à ma droite j'ai des gens qui produisent les textes et qui ont envie que ces textes soient accompagnés, donc vous n'avez plus besoin de moi, parlez-vous.
Non, mais ça, simplement, il y a des expériences qui ont été tentées, je trouvais ça très intéressant. Je parle pas des gens qui éditent un livre parce qu'ils l'ont écrit, leur seul argument de vente, c'est parce qu'ils l'ont écrit sur leur téléphone portable dans les transports en commun. Voilà. Mais par contre, que des grands auteurs reviennent un petit peu sur du feuilleton ou aux États-Unis avoir une vraie réflexion sur comment est-ce qu'on écrit un manuscrit, est-ce qu'on peut en publier une partie en cours de route. Stephen King, hein, notamment, avait pas mal réfléchi à ça. Pourquoi ne pas imaginer effectivement qu'on puisse vendre du chapitre à la découpe et qu'après sortir le livre. On a des expériences comme Angle Mort en face, qui aussi, c'est super intéressant. Mais... Donc c'est super intéressant, ça bouillonne, hein, mais ça n'a pas encore complètement évolué. Ça n'a pas encore complètement émergé, pardon. Évolué.
Tu as quand même un cas d'un auteur qui est venu aux Imaginales, je crois, il y a 2 ans de ça, qui a un groupe de lecteurs à qui il envoie tous les mois par Internet une nouvelle qu'il a écrite.
Mais qui les publie en recueil régulièrement.
Enfin, qui les publie en recueil, mais qui a cette espèce de forme d'édition, en quelque sorte, qui est de la vente directe.
Oui, c'est Bruce Land Rogers.
Oui, bien sûr.
Mais combien de lecteurs en France? Le jour où je trouve que c'est super intéressant, Bruce Land Rogers, c'est de dire tous les mois, vous avez 2 short stories. Short. Hein. Mais qui font de 10 lignes à 40-50 lignes, et c'est vraiment super intéressant. Et Lionel Davoust, qui est traducteur, propose un abonnement relativement modique.
5 euros, je crois.
5 euros par an, ouais, c'est ça. Et vous recevez votre cargaison de lecture. C'est super bien, quoi. Et en même temps, le jour où il sera à 3000 lecteurs, on dira youpi, le pari est réussi. Mais il n'est pas encore à 3000.
Ça n'a rien à voir, mais une remarque que je me suis faite récemment, je suis allée sur les sites américains pour j'avais besoin d'un livre en anglais et je me suis dit, je ne vais pas le commander en papier parce que voilà, ce serait plus pratique. Là-bas, l'e-book est plus cher que le poche.
Ça dépend vraiment un certain nombre de fichiers. Et il y a beaucoup de fichiers qui sont vraiment pas chers, ça, pour les avoir pratiqués. En plus, il y a des situations, je l'ai vu avec le dernier bouquin de Loïc McMaster Bujold. Loïc McMaster Bujold a sorti un nouveau roman de la série des Miles Merkover-Cossigan, qui est un gros roman. Son éditeur a fait une chose extraordinaire. Il a dit, écoutez, on croit en ce roman. Pour que vous sachiez à quel point on y croit et pour que vous découvriez le monde si vous ne le connaissez pas, on met la totalité des livres de Miles Morcodigan gratuits en téléchargement pendant une période de 3 mois. Moi, j'ai pu le télécharger, je suis très content de ça, et la totalité est gratuite. Et ils vous disent, quand vous aurez lu ça, vous aurez envie de lire la nouvelle série, la nouvelle aventure de Miles Morcodigan, ce qui est vrai. Et donc, vous allez acheter le bouquin, ce qui est vrai.
Peter Watts, il a fait ça. Hein. Il a mis tout gratos sur Internet, et après, il a été publié. Ouais. Thor fait ça, un bouquin par mois, oui c'est Thor, je crois,
ouais, Thor, l'éditeur
américain, un bouquin par mois, gratos, et c'est super intéressant, mais on n'a pas encore complètement basculé. Il faudrait aussi parler de My Major Company Book. Il faudrait demander à Eric Witzel, par exemple, quel est le résultat de sa campagne de promo là-dessus, quoi.
Moi, ce qui m'intéresse quand même dans les nouvelles formes d'édition, c'est que je vois dans d'autres domaines comme la musique ou la vidéo, il existe des moyens, des sites qui permettent à n'importe qui de mettre en ligne sa production, et y compris de le commercialiser d'une façon un peu sommaire, mais au moins de le mettre en ligne, et ça marche extrêmement bien pour la musique, ça marche extrêmement bien pour la vidéo. Pour les textes, étant donné qu'il faut plus de temps, parce qu'on peut juger d'une chanson en 45 secondes, on peut juger d'une illustration en un clin d'œil, et on peut juger d'une vidéo pareil en une petite minute, alors qu'un livre, il faut quand même le temps de se plonger dedans. Mais ça existe, ça existe. Il y a des gens qui vous disent, ok, cet espace-là, ce marché direct dans lequel nos choses seront, parce que nous avons nous-mêmes collé l'étiquette sur la vitrine, ça existe. Et ça, je ne sais pas si ça arrivera à un moment donné, et je ne sais pas si ça a une quelconque chance d'arriver, parce que j'ai véritablement le sentiment, et je suis heureux parce que vous me rendez la même impression, que l'éditeur, la phase d'édition, les passionnés que vous êtes, le travail sur le texte, le travail sur l'objet livre, le travail sur tout ce qui l'accompagne est absolument fondamental pour transformer ce qui n'est qu'un texte en un livre.
Qui a une liseuse dans le public ? Ok. Qui est sur les liseuses, qui achète des livres ou en lit en direct ? Ok, venez tous au stand.
Voilà. Bon, je pense qu'on arrive à la fin. Est-ce que vous avez des questions, puisqu'on a juste le temps pour 5 minutes de questions, comme toujours ? Oui ? Pascal ?
Est-ce que j'enregistre ? Alors, si vous ne posez pas les questions dans le micro, après, c'est le problème.
J'ai pas bien compris quelle est la différence entre des petites maisons comme la vôtre et Gallimard, quand Gallimard était petit, c'est-à-dire avec le même âge que vous. J'ai même l'impression que fondamentalement, vous en êtes exactement où ils en étaient après, par exemple, 5 ans d'activité vers 1914. Pas à 34 et tout. Mais c'est pas tellement ça qui est important, au fond. Je me demande si le problème d'une petite maison telle que la vôtre, c'est pas, en gros, comment ne pas devenir Gallimard.
Garder la passion et.
Faire autant de thunes avec moins de salariés.
Plus vous aurez les mêmes problèmes, plus. Me sens-t-il.
Tu veux répondre ?
Déjà, vous êtes un éditeur généraliste, donc vous avez déjà, vous ciblez déjà des genres que vous aimez et vous spécialisez là-dedans.
Moi, j'aurais aucun souci à devenir la taille de Gallimard. Je pense qu'on aurait d'autres problèmes structurels, il y en a toujours des problèmes structurels. Il est évident qu'être chef d'entreprise et se lancer dans une maison d'édition, il y a une partie sacerdoce. Mais il y a aussi une partie on y croit et on espère bien grossir. Alors évidemment, on ne va peut-être pas devenir Gallimard tout de suite. Et puis les gens ont un peu changé depuis 1914, et puis globalement là tout de suite non, mais moi ça me poserait aucun espèce de souci de pouvoir avoir un vrai développement, et j'adorerais pouvoir embaucher des gens justement comme Gallimard en disant toi tu ne t'occupes que des maquettes, toi tu ne fais que community manager, j'adorerais ça. Mais enfin voilà, oui Gallimard a d'autres problèmes, mais ok, ceux qui gagnent à l'euro million, ils ont d'autres problèmes aussi, mais je veux bien essayer. Après tout, pourquoi pas.
Eh bien, écoutez, merci à tous. Donc, et enfin, au moins, on saura que l'édition reste quelque chose de vivant, puisqu'il y a des tas de pousses dans le jardin, et qu'un certain nombre de ces pousses deviendront de grands arbres, et qu'un jour, j'espère que tu auras ton communiqué de champ manager.